Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié chez Fayard en 1987. Marie Stuart de Michel Duchin est une biographie historique consacrée à Marie Stuart, reine d'Écosse, brièvement reine de France par son mariage avec François II, puis figure centrale des conflits britanniques du XVIe siècle. L'ouvrage, long de 620 pages dans cette édition, examine un personnage dont la postérité a souvent privilégié soit le mythe romantique, soit l'accusation politique. Historien. Angliciste et ancien inspecteur général des archives de France, Duchin inscrit au contraire son étude dans les contraintes concrètes de son époque rivalité dynastique. Affrontement confessionnel, diplomatie entre France, Écosse et Angleterre et fragilité du pouvoir monarchique. Le livre ne traite donc pas seulement d'un destin individuel tragique. Il cherche à comprendre comment une souveraine, formée à la cour de France, mais appelée à régner dans une Écosse protestante et divisée, devient l'enjeu de force qui la dépasse. La formule attribuée à Marie, « En ma fin et mon commencement » résume l'horizon tragique que Duchin analyse avec distance critique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, démêler la reine historique de la légende de Marie Stuart. Marie Stuart pose un problème biographique particulier. Son existence a été continuellement réinterprétée par les partis religieux, les propagandes monarchiques et une longue tradition littéraire. Elle peut apparaître, selon les récits, comme une souveraine martyre, une femme imprudente, une victime de l'ambition d'autrui ou une responsable de ses propres revers. Duchin fait de cette instabilité des jugements un objet essentiel de sa démarche. Son intérêt ne consiste pas à substituer une image flatteuse à une image hostile, mais à restituer les faits dans leur contexte institutionnel et politique. Cette méthode est décisive pour un personnage sur lequel les sources sont chargées d'intentions, les adversaires de la reine avaient intérêt à justifier son éviction. Tandis que ses défenseurs pouvaient convertir sa mort en symbole catholique et dynastique. La biographie rappelle ainsi qu'un jugement moral isolé explique mal les événements. Les décisions de Marie doivent être rapportées à sa position de reine héréditaire, de catholique dans un royaume profondément transformé par la réforme, et de prétendante potentielle à la couronne anglaise. La portée du livre réside dans cette tension maintenue entre la femme et le mythe, l'émotion propre à son destin, n'efface ni les erreurs possibles, ni les calculs de ses contemporains. Deuxièmement, une souveraine façonnée par la France est confrontée à l'Écosse de la réforme. L'un des axes les plus éclairants de l'ouvrage est le décalage entre la formation française de Marie Stuart et les réalités du royaume écossais qu'elle doit gouverner. Élevée à la cour de France, elle devient l'épouse de François II et connaît très tôt un univers monarchique où les liens dynastiques, le cérémonial et la politique internationale sont étroitement liés. À la mort de François II, son retour en Écosse ne représente pas un simple changement de résidence, il la place à la tête d'un pays où la réforme protestante a modifié les équilibres religieux et le rapport à l'autorité royale. Duchin permet de lire cette situation comme un conflit de structure plutôt que comme une opposition de tempérament. La foi catholique de la reine, sa culture politique et ses alliances familiales ne peuvent être séparées du soupçon qu'elle suscite chez une partie des élites écossaises. Inversement, les dirigeants protestants ne forment pas seulement un décor hostile, ils participent à une recomposition effective du pouvoir. Le livre montre donc les limites d'une souveraineté fondée sur la naissance lorsque l'adhésion confessionnelle et l'influence des grands seigneurs deviennent déterminantes. Cette perspective évite d'interpréter l'échec de Marie comme la seule conséquence de sa personnalité. Troisièmement, les mariages dynastiques comme instruments politiques aux conséquences irréversibles. La trajectoire de Marie Stuart révèle la place stratégique du mariage dans l'Europe des monarchies héréditaires. Son union avec François II l'a fait accéder au rang de reine de France. Mais elle inscrit aussi son destin dans la rivalité franco-anglaise et dans les prétentions complexes sur la succession anglaise. Plus tard, ses choix matrimoniaux sont inséparables de la politique écossaise. Ils affectent les alliances des nobles, la stabilité interne du royaume et la perception de sa légitimité. Duchin analyse ainsi les mariages non comme des épisodes privés ajoutés à une chronique sentimentale, mais comme des actes de gouvernement, soumis à des calculs souvent contradictoires. Une reine ne choisit pas dans un espace personnel autonome, son époux éventuel peut renforcer une faction, alarmer une puissance voisine ou fragiliser l'autorité qu'il est censé soutenir. L'intérêt de cette lecture est de rendre intelligible l'enchaînement entre vie intime et crise publique, sans réduire l'une à l'autre. Dans le cas de Marie, les liens de parenté et les alliances conjugales deviennent des ressources politiques, mais également des foyers de vulnérabilité. Le lecteur comprend que, dans un système dynastique, la réputation, la succession et l'équilibre international sont affectés par des décisions qui semblent aujourd'hui relever de la sphère privée. Quatrièmement, le conflit avec l'Angleterre d'Elizabeth Eyre et la question de la succession, la biographie place nécessairement Marie Stuart dans l'orbite d'Elizabeth Eyre. car la relation entre les deux reines dépasse une rivalité personnelle. Marie possède un lien dynastique avec la couronne d'Angleterre et incarne, pour les catholiques anglais, comme pour certaines puissances européennes, une possible alternative à Elisabeth. Cette situation rend toute décision anglaise à son égard politiquement explosive. Accueillir Marie, la surveiller. La libérer ou la condamner ne relève jamais d'une simple question de clémence, chaque option touche à la sécurité du régime élisabétain, au complot réel ou supposé. Et à l'équilibre confessionnel du royaume. Duchin éclaire la logique de cette impasse. Après sa fuite d'Écosse, Marie n'est plus en mesure d'exercer effectivement son autorité écossaise, mais elle demeure un symbole dynastique suffisamment puissant pour inquiéter l'Angleterre. Son emprisonnement prolongé reflète cette contradiction vivante et libre, elle représente un risque. Exécutée, elle devient une figure de martyr et crée un précédent contre la monarchie. L'analyse rappelle ainsi que l'issue tragique n'est pas le produit mécanique d'une inimitié entre deux femmes, mais celui d'États confrontés aux limites de la légitimité, de la souveraineté et de la raison d'État. En dernier lieu, la rigueur archivistique au service d'un récit lisible de la politique européenne. La valeur distinctive de Marie Stuart tient aussi à la manière dont Michel Duchin associe compétences historiques et lisibilité narrative. Spécialiste de l'histoire britannique, formé à l'école des chartes et ayant exercé de hautes fonctions aux archives de France, il aborde un sujet abondamment raconté sans céder à une simplification romanesque. Les événements sont nombreux et souvent simultanés changements de règne, rivalité entre nobles écossais, négociations avec la France et l'Angleterre, conflits religieux et enjeux successoraux. Dans une telle matière, un récit convaincant doit faire apparaître les causalités sans faire croire qu'elles étaient inévitables. Les appréciations disponibles sur l'ouvrage soulignent précisément sa rigueur, son impartialité et la qualité de son style. Cette combinaison importe pour le lecteur, la documentation ne se transforme pas en accumulation sèche de détails. Tandis que l'efficacité du récit ne dispense pas de distinguer les faits établis, les intérêts des acteurs et les interprétations ultérieures. Duchin offre ainsi une biographie qui sert aussi d'introduction exigeante aux mécanismes politiques du XVIe siècle britannique. Son approche montre qu'une vie royale ne peut être comprise qu'en replaçant ses décisions dans les institutions, les alliances et les contraintes de son temps. En conclusion, Marie Stuart s'adresse en priorité aux lecteurs de biographies historiques qui souhaitent dépasser les versions simplifiées d'un destin célèbre. Il conviendra particulièrement aux personnes intéressées par l'histoire de l'Écosse, des Tudors et des Stuart, par les guerres de religion, ou par les liens entre la France et les îles britanniques au XVIe siècle. Son bénéfice intellectuel principal est d'apprendre à lire une figure historique controversée sans la réduire à une héroïne romantique, à une victime absolue ou à une coupable commode. La reine y apparaît dans un réseau de contraintes où la confession, la parenté, les alliances matrimoniales et la succession anglaise pèsent sur chaque choix. Par rapport à de nombreuses évocations de Marie Stuart centrées sur l'épisode tragique de sa captivité et de son exécution. L'ouvrage de Duchin se distingue par son effort de contextualisation et par une réserve analytique saluée dans les sources disponibles. Sa connaissance de l'histoire britannique et sa pratique d'historien archiviste soutiennent une lecture attentive aux mécanismes du pouvoir plutôt qu'au seul effet dramatique. Le volume demande une certaine attention, car son sujet implique plusieurs pays et de nombreux intérêts concurrents. Cette densité est toutefois la condition de sa clarté historique. Le lecteur en retire une compréhension plus solide de la manière dont une souveraine peut devenir, malgré elle ou par ses décisions, le point de convergence de crises nationales et européennes. C'est donc moins une légende réécrite qu'une enquête historique structurée sur la fabrication d'un destin politique tragique. Si vous souhaitez soutenir Michel Duchin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.